8.
Vous voulez que je baisse la lumière ? Proposa Howie.
Non, répondit Holly. Nous ne sommes pas au cinéma. Considérez cela comme un document. Et même si le film est court, 87 minutes seulement, nous n'avons pas besoin de le visionner dans son intégralité.
Elle n'était pas aussi nerveuse qu'elle l'avait craint, pour l'instant du moins.
Toutefois, avant de vous le montrer, je dois préciser quelque chose. Quelque chose que vous savez tous maintenant, je suppose, même si votre esprit conscient n'est pas encore prêt à admettre cette vérité.
Ils la regardèrent, sans rien dire. Tous ses yeux posés sur elle. Holly avait du mal à y croire. Holly Gibney, la petite souris qui s'asseyait toujours au fond de la classe, qui ne levait jamais la main, qui portait ses affaires de sport sous ses vêtements les jours où il y avait gym. Holly Gibney, qui même à 20 ans, n'osait pas s'opposer à sa mère. Holly Gibney, qui avait perdu la tête en deux occasions.
Mais c'était avant Bill. Il savait que je valais mieux que ça, et pour lui je me suis dépassée. Comme je vais le faire aujourd'hui, pour ces gens. Terry Maitland n'a pas tué Frank Peterson, et Is Holmes n'a pas assassiné les sœurs Howard. Ces meurtres ont été commis par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se sert de notre science moderne, de notre science médico-légale, contre nous. Mais sa vraie arme, c'est notre refus de croire à son existence. Nous sommes formés pour suivre les faits, et parfois nous flairons sa présence quand les faits se contredisent, mais nous refusons de suivre cette piste. Il le sait. Il s'en sert.
Mademoiselle Gibney, intervint Janet Anderson. Êtes-vous en train de nous expliquer que ces meurtres ont été commis par une créature surnaturelle? Une sorte de vampire? Holly réfléchit en se mordillant les lèvres. Finalement, elle dit.
Je ne veux pas répondre à cette question. Pas maintenant. Je veux d'abord vous montrer un extrait du film que j'ai apporté. Il s'agit d'un film mexicain doublé en anglais. Il a été projeté ici dans les doubles programmes des drive-in il y a 50 ans de ça. Le titre traduit est « Les lutteuses mexicaines contre le monstre ». Mais en espagnol
« Oh allons !» la coupa Ralph. « C'est ridicule !»«
Tais-toi !»
dit sa femme. Elle avait parlé tout bas, mais chacun perçut la colère dans sa voix.
« Laisse-lui une chance !»«
Mais
tu n'étais pas là la nuit dernière, moi si !»
Ralph croisa les bras sur la poitrine, comme l'avait fait Samuels. Un geste que Holly connaissait bien. Un signe de rejet, qui disait « Je refuse d'écouter ». Elle poursuivit malgré tout.
Le titre original est « Rosita luchadora e amigas conocen el cuco ». En espagnol, ça veut dire
« Voilà, c'est ça !»
s'exclama Younel, faisant sursauter tout le monde.
« C'est le nom que j'avais sur le bout de la langue au restaurant, samedi matin. Vous vous souvenez de cette histoire, Ralph? Celle que la abuela de ma femme lui racontait quand elle était pequeña. »
Comment pourrais-je l'oublier? Le type avec son grand sac noir qui tue les enfants et se frotte le corps. Il se tut, en songeant malgré lui à Frank Peterson et aux filles Howard.
Que fait-il?
Demanda Marcy Maitland.
Il boit leur sang et se frotte le corps avec leur graisse, dit Younel. Pour rester jeune, al coco.
Oui, confirma Holly. En Espagne, il est connu sous le nom d'El Hombre con Saco. L'homme au sac. Au Portugal, c'est Coco, l'homme à la tête de citrouille. Quand les enfants sculptent des citrouilles à Halloween, ils sculptent l'image d'El Coco, comme le faisaient les enfants en Ibérie il y a des centaines d'années.
Il existait une comptine sur El Coco, dit Younel. La abuela la chantait le soir parfois.
Duermete, niño, duermete ya.
J'ai oublié la suite.
Dors, mon enfant, dors.
Traduisit Holly.
El coco est au plafond. Il vient pour te manger.
Une chanson tout indiquée avant de dormir, dit Alec. Avec ça, les enfants devaient faire de beaux rêves.
Mon Dieu, dit Marcy dans un murmure. Vous pensez qu'une créature pareille est entrée chez nous? Et s'est assise sur le lit de ma fille?
Oui et non, répondit Holly. Laissez-moi vous passer le film.
Les 10 premières minutes devraient suffire.
9. Jack Hoskins rêvait qu'il conduisait sur une route à 2 voies désertes. De part et d'autre, il n'y avait que le vide et des milliers de kilomètres de ciel bleu au-dessus de sa tête. Il conduisait un poids lourd, un camion-citerne peut-être, car il sentait une odeur d'essence. À côté de lui était assis un homme aux cheveux noirs très courts qui portait un bouc. Des tatouages recouvraient ses bras. Hoskins le connaissait car il fréquentait souvent le Gentleman Please, rarement en service. Et il avait souvent bavardé agréablement avec Claude Bolton, car même s'il avait un casier judiciaire, ce n'était pas un mauvais bougre, et il était retourné dans le droit chemin. Mais ce Claude-ci était un très mauvais bougre. C'était le Claude qui avait écarté le rideau de douche juste assez pour que Hoskins puisse lire le mot tatoué sur ses doigts. Kant. Le camion passa devant un panneau indiquant « Marysville, 1280 habitants ».
« Le cancer se propage rapidement », dit Claude.
Et c'était bien la voix qui s'échappait de derrière le rideau de douche.
« Regarde tes mains, Jack !»
Celui-ci baissa les yeux. Ses mains, sur le volant, étaient devenues noires. Et alors qu'il les regardait, elles tombèrent. Le camion-citerne quitta la route et bascula sur le côté. Jack comprit qu'il allait exploser. Alors il s'arracha à son rêve avant que cela se produise et, le souffle court, il se retrouva en train de regarder le plafond.
« Nom de Dieu !»
souffla-t-il, en vérifiant que ses mains étaient toujours là. Oui, sa montre aussi. Il avait dormi moins d'une heure. «
Nom de... »
Quelqu'un bougea sur sa gauche, dans le lit. L'espace d'un instant, il se demanda s'il avait ramené la jolie barmaid aux jambes sans fin. Non, il était seul. D'ailleurs, une belle femme comme elle ne voudrait jamais de lui. Pour elle, il n'était qu'un quadragénaire alcoolique et obèse qui perdait ses cheveux. Il tourna la tête. La femme couchée dans son lit était sa mère. Il la reconnut grâce à la barrette en écaille de tortue qui pendait dans les rares cheveux qui lui restaient, fins et secs. Elle portait cette barrette le jour de l'enterrement. Le croque-mort avait arrangé son visage, et s'il paraissait un peu cireux, comme celui d'une poupée, ce n'était pas si mal dans l'ensemble. Aujourd'hui, ce visage avait quasiment disparu. La chair pourrissait sur les os. La chemise de nuit restait accrochée au corps, car elle était imbibée de pu. Sa mère dégageait une odeur de viande avariée. Il essaya de hurler, sans y parvenir.
« Voilà ce qui t'attend, Jack !»
dit-elle. Il voyait ses dents s'entrechoquer, car elle n'avait plus de lèvres.
« Le cancer te dévore. Il peut le reprendre, mais bientôt, ce sera trop tard, même pour lui. Alors, tu feras ce qu'il te demande. »
« Oui, » murmura Hoskins.
« Oui, n'importe quoi. Alors, écoute. »
Jack Hoskins tendit l'oreille. 10. Le film de Holly ne fut pas précédé d'avertissements du FBI, ce qui n'étonna pas Ralph outre mesure. Qui se donnerait la peine de protéger par un copyright une œuvre aussi ancienne, un tel navet qui plus est? La musique était un mélange gnangnan de violons langoureux et de riffs d'accordéon joyeusement discordants, dans le style norteño. La copie, très abîmée, semblait avoir été montrée d'innombrables fois par un projectionniste mort depuis longtemps qui n'en avait rien à foutre. « Je n'arrive pas à croire que je suis en train de regarder ça », pensa Ralph. « C'est une histoire de fou. » Mais sa femme et Marcy Maitland fixaient l'écran avec la concentration de 2 étudiantes qui préparent leur examen de fin d'année. Quant aux autres, s'ils ne paraissaient pas aussi investis, ils n'en étaient pas moins attentifs. Yunel Sablo affichait un léger sourire. Non pas le sourire d'une personne qui a le sentiment de voir une chose ridicule, mais celui d'un homme qui retrouve une partie de son passé, une légende enfantine ressuscitée. Le film s'ouvre sur une scène nocturne, dans une rue où tous les commerces semblent être des bars et des bordels, ou les deux. La caméra suit une jolie femme en robe décolletée, qui marche en tenant par la main sa fille âgée de 4 ou 5 ans. La raison de leur présence dans ce quartier malfamé alors que la gamine devrait être couchée, sera peut-être expliqué plus tard dans le film. Un ivrogne s'approche de la femme en titubant. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose et le comédien qui le double demande « Hé, ma jolie, tu cherches de la compagnie ?» avec un accent mexicain digne de Speedy Gonzales. La femme le repousse et poursuit son chemin. Soudain, dans un coin sombre entre deux lampadaires, un type vêtu d'une longue cape noire, tout droit sorti d'un film de Dracula, jaillit d'une ruelle. Un grand sac noir dans une main. De l'autre, il se saisit de la fillette et l'emmène. La mère hurle et se lance à sa poursuite. Elle le rattrape sous un lampadaire et agrippe le sac. L'homme fait volte-face. La lumière d'un lampadaire idéalement placé éclaire le visage d'un homme d'un certain âge au front barré d'une cicatrice. Son ricanement dévoile des fausses dents de vampire. La jeune femme recule, main levée. Elle ressemble moins à une mère en détresse qu'à une chanteuse d'opéra qui s'apprête à se lancer dans un air de Carmen. Le voleur d'enfants rabat sa cape sur la fillette et s'enfuit. Au moment où un autre type, sortant d'un des nombreux bars de la rue, lui lance avec ce même accent épouvantable
« Hé, professeur Espinosa, où que vous allez comme ça? Je vous paye un verre !»
Dans la scène suivante, la mère est conduite à la morgue. El deposito de cadáveres, peut-on lire sur la porte vitrée. Et pousse le hurlement mélodramatique attendu quand quelqu'un soulève le drap pour lui montrer son enfant que l'on devine mutilé. Survient ensuite l'arrestation de l'homme à la cicatrice, qui se révèle être un professeur d'université très respecté. Suite à un des procès les plus expéditifs de l'histoire du cinéma, la mère est amenée à témoigner, ainsi que deux autres hommes à la voix de Speedy Gonzales, dont celui qui voulait offrir un verre au professeur. Le jury sort pour délibérer. Pour ajouter une touche surréaliste à cette procédure trop prévisible, cinq femmes ont pris place au fond de la salle, vêtues de costumes de super-héros, leurs visages dissimulés par des masques extravagants. Personne, pas même le juge, ne semble s'en étonner. Le jury revient. Le professeur Espinosa est reconnu coupable de ce meurtre odieux. Il baisse la tête et prend un air honteux. Une des femmes masquées se lève alors d'un bond et déclare
« C'est une parodie de justice. Le professeur Espinosa ne fera jamais du mal à un enfant. Yez-le-vous !»
s'exclame la mère.
« Cette fois, tout est trempé, Rosita !»
Les femmes masquées, en tenue de super-héros, quittent le tribunal d'un pas décidé, avec leurs chouettes bottes, et un fondu enchaîné fait apparaître un échafaud entouré d'une foule de curieux. Le professeur Espinosa monte les marches. Alors qu'on lui passe la corde au cou, il ne quitte pas des yeux un homme vêtu d'une robe de moine à capuche qui se tient derrière la foule. Entre ses pieds chaussés de sandales est posé un sac noir. C'était un film stupide, mal réalisé. Néanmoins, Ralph sentit la chair de poule sur ses bras, et il posa sa main sur celle de Janet. Ils savaient très exactement ce qu'ils allaient voir ensuite. En effet, le moine ôte sa capuche, dévoilant le visage du professeur Espinosa, reconnaissable à sa cicatrice bien pratique. Son sourire laisse voir ses dents en plastique ridicule. Il montre son sac noir et éclate de rire.
« Là-bas !»
s'écrie le vrai professeur sur l'échafaud.
« C'est lui ! Là-bas !»
Les gens se retournent, mais l'homme au sac noir a disparu. Un autre sac noir, une cagoule en l'occurrence, tombe sur le visage d'Espinosa. Il hurle à travers.
« Le monstre ! Le monstre ! Le monstre !»
La trappe s'ouvre, il tombe. La séquence suivante montrait les femmes masquées pourchassant le faux moine sur des toits. Holly choisit ce moment-là pour appuyer sur pause.
« Il y a 25 ans, dit-elle, j'ai vu une version sous-titrée de ce film. Dans la VO, on entend le professeur s'écrier « El cuco! El cuco !»«
Bien sûr, » murmura Yunel. « Ah, bon sang, je n'avais pas revu un de ces films de luchadoras depuis que j'étais gosse. Il doit en exister une dizaine. »
Il regarda les autres personnes réunies autour de la table avec l'air de celui qui émerge d'un rêve.
« Las luchadoras. Les lutteuses. La vedette de ce film, Rosita, était très célèbre. Vous auriez dû la voir sans son masque. Ay, caramba!
Il agita la main comme s'il s'était brûlé.
Pas une dizaine, mais au moins 50, dit Holly. Au Mexique, les gens raffolaient de las luchadoras. C'était un peu les films de super-héros d'aujourd'hui, sans les mêmes budgets, évidemment.
Elle aurait aimé leur faire un cours sur ce sujet fascinant, à ses yeux du moins. Mais le moment était mal choisi, alors que l'inspecteur Anderson semblait avoir mordu dans un fruit pourri. Elle ne leur avouerait pas non plus qu'elle avait adoré ces films de luchadoras. La chaîne de télé locale, à Cleveland, les diffusait tous les samedis soirs, dans le cadre de son émission Cinétoc. Holly devinait que les étudiants et les étudiantes les regardaient, une fois bourrés, et se moquaient des mauvais doublages et des costumes qu'ils jugeaient sans doute pitoyables. Mais pour la lycéenne malheureuse et effrayée qu'elle était alors, il n'y avait rien de risible dans ces films. Carlota, Maria et Rosita étaient fortes et courageuses. Elles venaient en aide aux pauvres et aux opprimés. La plus célèbre, Rosita Muñoz, se qualifiait elle-même fièrement de Cholita. Et c'était exactement ainsi que se voyait cette lycéenne triste et seule la plupart du temps. Une bâtarde, un monstre de foire.
La plupart de ces films de catcheuses mexicaines reprenaient de vieilles légendes. Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Voyez-vous à quel point il coïncide avec ce que nous savons de ces meurtres ?
Parfaitement, répondit Bill Samuels. Je vous le concède. Seul problème, c'est complètement dingue. Du délire. Et si vous croyez à l'existence d'El Cuco, mademoiselle Gibney, alors c'est vous, El Cuco, la cinglée.
Dit l'homme qui m'a raconté l'histoire des empreintes de pas qui disparaissent, songea Ralph. Lui non plus ne croyait pas à l'existence d'El Cuco. Mais il estimait que cette femme avait fait preuve de courage en leur montrant ce film, sachant quelle serait leur réaction. Et il était curieux de voir comment allait réagir cette mademoiselle Gibney de l'agence Finders Keepers.
On raconte qu'El Cuco se nourrit du sang et de la graisse des enfants, reprit Holly. Mais dans la réalité, notre réalité, il survivrait également grâce aux gens qui pensent comme vous, monsieur Samuels. Et comme vous tous, je suppose. Laissez-moi vous montrer une dernière chose, un très court extrait, promis.
Elle sélectionna le chapitre 9 du DVD, l'avant-dernier. Une des luchadoras, Carlota, a acculé le moine encapuchonné dans un entrepôt désert. Celui-ci tente de s'échapper en empruntant une échelle judicieusement placée là. Mais Carlota le retient par son ample robe et l'envoie valdinguer par-dessus son épaule. Il exécute un saut périlleux et retombe sur le dos. Sa capuche tombe, dévoilant un visage qui n'en est pas un, mais une surface vide grumeleuse. Carlota hurle au moment où deux broches rougeoyantes jaillissent des orbites vides. Sans doute possède-t-elle un pouvoir répulsif quelconque, car Carlota recule en titubant jusqu'au mur, en levant une main devant son masque de luchadora pour tenter de se protéger.
« Arrêtez !» demanda Marcy. « Par pitié !»
Holly appuya sur une touche de son ordinateur. L'image disparut de l'écran, mais Ralph la voyait encore. Un effet d'optique préhistorique, comparé aux images de synthèse des films d'aujourd'hui. Suffisamment efficace néanmoins, si vous aviez entendu auparavant une fillette vous raconter la visite d'un intrus dans sa chambre.
« Pensez-vous que c'est ce que votre fille a vu, Madame Maitland ?» demanda Holly. « Pas dans le détail, évidemment, mais oui, tout à fait. Des pailles à la place des yeux. C'est ce qu'elle a dit. Des pailles à la place des yeux. »